Donc que vous m'ayez accordé cet entretien, parce que vous avez sur la question une position très originale. Vous avez exploré la question sous divers aspects, mais toujours selon vous, selon ce que vous êtes, et je pense en parfaite unité d'être. Donc commençons déjà par la définition. Comment définiriez-vous existence? Comment définiriez-vous spiritualité? Ah mais il faut commencer dans le vif du sujet.
Oui, c'est drôle ce mot d'existence parce que il a l'air de dire autre chose que si on disait la vie, la vie, l'existence. Je dirais que ce mot me paraît mettre l'accent, sans le dire, comme ça, presque invisiblement, ben justement sur la fragilité de la vie, sur la fragilité de l'existence. C'est presque une manière de dire qu'on est dans le provisoire. L'existence. C'est tout sauf un mot optimiste, et encore moins arrogant. Si on dit la vie, ça peut être plein de... C'est toujours plein de choses, mais la vie, c'est quand même un mot qui est bourré d'espoir. Le terme d'existence est plutôt négatif, je trouve, par rapport à la vie.
Parce qu'il appelle à une responsabilité.
Parce
qu'il appelle à une responsabilité individuelle à l'égard de la vie.
Ah, ça c'est une... Oui, c'est une interprétation à laquelle je n'avais pas pensé. La responsabilité. Ce dont je suis avant tout plein par rapport à ce mot, ce dont ce mot me remplit, c'est la fragilité, le provisoire et beaucoup plus que la responsabilité. Mais bien sûr, le mot peut être rattrapé, repris par la notion de responsabilité. Si on dit l'existence, nous sommes des existants. C'est pas du tout la même chose que de dire nous sommes des vivants. Oui, c'est un mot qui met la vie en question, le mot d'existence. Peut-être que j'ai tort de délirer de cette manière. Et d'abord, si j'essaie de réfléchir, la vie, ça s'oppose à la mort. Bon, mais l'existence, ça s'oppose à quoi? On va me dire, ça s'oppose à l'inexistence. Mais ça, c'est pas très, ça ne nous apporte pas grand-chose parce que le négatif n'est que la négation de l'existence. Donc, c'est pas du tout comme la mort, la vie. L'inexistence par rapport à l'existence.
L'existence pourrait s'opposer à ne pas être.
Ne pas être. to be or not to be, that is the question.
Oui, on pourrait. Mais
c'est ça.
C'est une question.
Oui, être ou ne pas être. Oui.
Mais alors dans le monologue d'Hamlet, c'est une question éthique qui pose.
Pardon ?
C'est une question éthique qui pose.
Oui, alors là, je vais réagir d'une façon qui peut tout à fait vous décevoir. Je n'aime pas le verbe être. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout le verbe être. Pour plusieurs raisons. Certaines sérieuses, d'autres plus ludiques. Ma raison la plus sérieuse, c'est que le verbe être me semble terriblement accroché à sa majuscule initiale, à une majuscule initiale. Et l'être, à ce moment-là, je sors mon revolver parce que c'est Heidegger que je vois, que j'entends, oui. Je ne sais plus si c'était Himmler ou Göring qui sortait son revolver quand il entendait parler de la culture. Moi, je sors mon revolver métaphysique, bien sûr. Je sors mon revolver métaphysique quand j'entends parler de l'être, parce que là, je me dis, nous frôlons quelque chose qui est l'ennemi majeur de la vie, c'est-à-dire l'essentialisme, c'est-à-dire le réalisme logique, l'essentialisation des abstractions. Et alors, je vais me permettre une plaisanterie. Voilà. Le verbe être, mais on n'est jamais puni que par soi-même. Alors, je pense que le verbe être est puni par lui-même sans le savoir. Parce que quand on répète la formule fameuse « je pense, donc je suis », on ne se rend pas compte que « je suis », c'est le verbe « suivre ». C'est indissociablement le verbe « suivre » et le verbe « être ». Et même on ne sait plus. Et moi maintenant, dans cette formule trop ressassée, c'est le verbe « suivre » que j'entends. Et je pense que la plupart des gens qui pensent ne font que suivre. Et donc, ça déclenche chez moi une agressivité qui n'est que la défensive même du vivant, justement. Pourquoi la défensive du vivant ? Ben, je viens de développer cette idée que je me suis aperçu en me relisant des choses anciennes que j'avais écrites par-ci par-là, je me suis aperçu que ça faisait très longtemps que je tournais autour de cette idée, mais je l'ai développée comme je l'avais encore jamais développée dans le livre qui est sorti chez Laurence Tepper en octobre 2007 et qui s'intitule « Heidegger ou le national-essentialisme ». C'est l'opposition entre le nominalisme et le réalisme logique, c'est comme ça que parlent les philosophes, c'est-à-dire l'essentialisation généralisée. Et alors là, vraiment, si l'existence doit être en rapport avec le verbe être, rien ne s'oppose plus à la vie que l'existence. Parce que si je dis la vie, eh bien, c'est d'abord les vivants. Et là, je me fonde sur un exemple biblique, en hébreu biblique, que je n'ai jamais vu repérer dans aucune exégèse de de la Bible, et même plus précisément de la Genèse, dont aucune exégèse, ni juive, ni catholique, ni protestante, ni écuménique, rien, je n'ai jamais vu repérer. Ce qui m'a frappé en travaillant sur le texte biblique, c'est que certains abstraits en hébreu biblique se font avec le pluriel du concret. Alors, le plus bel exemple, c'est le mot qui veut dire vivant, le vivant en hébreu biblique, c'est chai, H-A-I, tréma sur le I, et une petite apostrophe devant le H, pour noter le son chai. D'accord. Alors chai, ça veut dire vivant. Le pluriel masculin de chai, c'est chayim. H-A-Y-I-M. Chayim. Et ce pluriel du vivant, les vivants, eh bien, c'est devenu un abstrait, et ça signifie la vie. Et ça, c'est une véritable parabole, en un mot, de tout le problème, c'est-à-dire que la vie, c'est d'abord les vivants, et c'est ça tout le nominalisme, c'est l'enjeu du sujet, l'enjeu des individus. Alors là je reviens et je sais que je me répète, mais comme disait Peggy, quand c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, donc il faut répéter. Alors je répète, à la fois parce que culturellement, on parle à des sourds, la preuve qu'il y a des sourds, c'est les exégètes bibliques. Ils sont sourds, sourds au rythme, et sourds à ces faits de sémantisme. Il y a cette particularité du nominalisme qui, en fait, et là l'exemple est trop beau, je vais le citer, c'est au XIIe siècle, à l'époque d'Abélard, on discutait beaucoup sur le mot « l'humanité ». On discutait beaucoup sur le mot « Dieu », bien sûr, mais... avec le mot Dieu, on ne peut pas être nominaliste. Avec le mot Dieu, on est forcément réaliste. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique le réalisme logique, ça implique une relation de continuité entre les mots et les choses, de telle sorte que le mot Dieu, à lui seul, prouve l'existence de Dieu. Alors que le nominalisme... Ça, c'est appelé nominalisme parce que du point de vue que soutenaient ceux qu'on a appelés les nominalistes, de ce point de vue, les mots ne sont que des noms qu'on met sur les choses. Et vous ne pouvez pas dire que Dieu n'est qu'un nom. C'est pas possible. Mais alors, on discutait sur le mot l'humanité. Alors, du point de vue réaliste, l'humanité existe. Ah, vous voyez, elle existe. L'humanité existe. Et qu'est-ce que les individus? Les individus sont des fragments de l'humanité. La seule chose qui existe, c'est l'humanité. Les nominalistes avaient un point de vue inverse. Il disait d'abord, les individus existent. Alors, qu'est-ce que l'humanité? L'humanité, du point de vue nominaliste, c'est l'ensemble des individus. Et ça change tout. Du point de vue logique, c'est simplement deux points de vue. Ils sont aussi vrais l'un que l'autre, en tant que point de vue. Mais les conséquences éthiques et politiques, et d'ailleurs aussi poétiques, et artistique, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Parce que si on dit les individus d'abord, et l'humanité n'est que l'ensemble des individus, eh bien, une éthique est possible. Pourquoi une éthique est possible? Parce que l'éthique, c'est la réflexion sur ce que c'est qu'un sujet, ce que nous sommes comme sujet, sujet de et sujet à. Nous sommes sujets à des maladies, mais nous sommes aussi sujets de ce que nous pensons, de ce que nous faisons. Sujet A et sujet 2. Eh bien, du point de vue nominaliste, une éthique est possible. Une éthique n'est pas possible pour les individus dans le réalisme logique, pour la bonne raison que les individus ne sont que des fragments de l'humanité. Les individus n'existent pas comme individus. Ils ne sont que des éléments d'un ensemble, et c'est cet ensemble qui, lui, existe. Alors, c'est un débat qui peut paraître folklorique, daté du XIIe siècle, comme ça. En réalité, ce débat est permanent, il est même terriblement actuel. Je ne prendrai qu'un exemple. Il n'est pas politiquement correct, mais ce n'est pas de ma faute. Eh bien, c'est à la fois l'islam et l'islamisme, parce que c'est exactement ce qui se passait avec le mot « l'humanité ». Dans l'islam, la « umma » U-2-M-A, la « umma » existe. La umma, c'est un ensemble, c'est l'ensemble social, religieux et politique, inséparablement religieux et politique, qui est l'ensemble de la nation, mais comme unité religieuse. Mm. Et il n'y a pas d'individu. Et déjà, Grootwiesen, dans un livre des années 30, un livre qu'il avait intitulé « Anthropologie philosophique », un très beau livre. Il y a une édition de poche chez Gallimard dans laquelle j'ai fait une préface. C'est parce que moi je suis polythéiste et un de mes dieux c'est Grootwiesen. Et alors ils avaient dû s'en apercevoir chez Gallimard et donc ils m'avaient demandé une préface. Anthropologie philosophique, c'est un livre merveilleux où Grootwiesen montre que la notion d'individu est une notion intermittente. Elle n'a pas toujours existé. Saint Augustin est un des premiers qui pense la notion d'individu. Et puis ça s'oublie. Et puis d'autres, je ne me rappelle plus, repensent de nouveau à cette notion d'individu. Bref, cette notion qui est tellement vitale n'a pas toujours été pensée. Et c'est ça qu'on apprend d'une manière impressionnante dans Anthropologie philosophique de Grootwiesen. Alors, le mot « vie » en hébreu biblique, le vivant, les vivants égale la vie, il n'est pas tout seul. La jeunesse en hébreu, c'est le jeune, Nahar, le jeune, Neourim, les jeunes, et Neourim, c'est la jeunesse. Y a un exemple qui est encore plus beau. J'en connais pas beaucoup, mais je n'ai pas fini d'étudier.
Il y a l'eau. Nahar, je décris A-N-A-H-A-R, ça va ça?
Nahar. Ah non, il n'y a pas de H.
D'accord.
Oui.
N-A-A.
N-A-A-R, oui, voilà, c'est ça tout simplement. Oui.
Et Néorim, il n'y a pas de H non plus.
Non, il n'y a pas de H non plus. Non, bien sûr. Maïm. Oui. En fait, c'est plutôt un duel. Mais enfin, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de cet exemple. Alors, je préfère continuer mon travail là-dessus pour ne pas dire de bêtises. Mais il y a un exemple dont je suis sûr et qui est vraiment très beau. C'est ce que toute la tradition traduisait par compassion ou miséricorde. Compassion, miséricorde. Bon, c'est net que c'est un abstrait. Eh bien, dans l'hébreu biblique, c'est pour Merci. Vous, Anne. Dans l'hébreu biblique, c'est le pluriel du mot qui signifie la matrice, l'utérus.
Ah oui, comment parler de ça, hein.
La matrice, l'utérus, l'organe dans lequel se développe l'être vivant, le fœtus. Alors, la matrice ou l'utérus, en hébreu, c'est rechem, apostrophe H-E-M, rechem. Mm. Au pluriel, rachamim, R-A, apostrophe H-A-M-I-M. Rachamim, c'est le pluriel du mot qui veut dire matrice, autrement dit, littéralement, les matrices. Mais c'est un pluriel qui a un sens abstrait. C'est pour ça qu'on l'avait traduit compassion et miséricorde. Mais si on y réfléchit un instant, dans la mesure où c'est un mot qui désigne cet organe tout à fait spécial où se développe l'être vivant, pourquoi est-ce que, en tant qu'abstrait, ça signifierait la compassion ou la miséricorde? Non, ça ne signifie pas ça. Ça signifie quelque chose d'autre et de beaucoup plus fort. Et je me suis renseigné dans les meilleurs dictionnaires. C'est exactement un mot qui, en tant que pluriel abstrait, désignant un abstrait, signifie le sentiment qu'une mère éprouve pour ce qui est sorti de son ventre. Voilà, tout simplement. Et c'est beaucoup plus fort que compassion, miséricorde. Alors bon, on n'a peut-être pas trouvé le mot qui convenait. Compassion, miséricorde, en tout cas, certainement pas. Alors, c'est un exemple qui a un aspect comique. Parce que André Chouaki, qui voulait tellement faire fort en traduisant l'hébreu biblique, mais qui faisait une erreur terrible du point de vue du sens du langage, il a cru que pour faire plus fort que traduire le sens des mots, il fallait traduire l'étymologie. Alors, avec ce terme de rachamim, qu'est-ce qu'on trouve à un certain endroit dans les psaumes, dans la traduction de Chouraki ? Ne boucle pas tes matrices. Bon, généralement, ça fait rire. Ne boucle pas tes matrices. Moi, je traduis, ne me refuse pas les tendresses de ton ventre. C'est plus long, c'est long, mais après tout, qui dit qu'on doit faire des économies ? Là, ce qui compte, c'est la force de ce sens. Et bien voilà, un abstrait encore qui est un pluriel du concret. Il y en a certainement d'autres.
Claude saurait les citer, sûrement.
Claude Birman.
Non, Claude Vigée.
Ah, Claude Vigée, hein, oui, c'est bien possible. Mais. J'ai parlé à Marseille avec
Claude Birman.
Oui, et qui m'a suggéré, je vais y réfléchir encore, le mot hébreu pour dire le visage, c'est panim.
Panim.
P-A-N-I-M. Et panim est un pluriel. Oh. Mais c'est un peu différent parce que ce n'est pas un abstrait, le visage. Mais c'est le pluriel de pan, qui veut dire l'aspect. Alors, c'est étrange, mais sans doute que ces sortes de pluriels demanderaient une étude que je ne fais qu'esquisser, là. Et donc, je ne peux que reconnaître que je n'en suis qu'au début d'une telle réflexion. Mais tout ça, c'est pour illustrer le nominalisme des individus. Alors que le réalisme logique, comme point de vue, ne permet pas aucune éthique. Et la preuve, si je peux dire, c'est que le philosophe maximal de l'être, qui est Heidegger, eh bien, vous pouvez toujours chercher une éthique chez lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que Heidegger rejette, dès ses travaux de jeunesse, il rejette le sujet, il le rejette parce qu'il le met dans la psychologie de son époque, il rejette tout ça. Voilà, et c'est ce qui fait que il n'y a ni éthique chez Heidegger, ni poétique, pour la bonne raison que c'est la langue qui parle. Alors là, il y a une phrase célèbre que je ne peux que citer d'Heidegger. La langue parle, l'homme parle quand il répond à la langue. Alors il y en a qui traduisent quand il correspond à la langue, mais c'est un petit jeu de traduction qui ne me convainc pas. Et le verbe qu'emploie Heidegger en allemand, c'est bien répondre. La langue parle, l'homme ne parle que quand il répond à la langue. Alors il n'y a pas de sujet, et donc c'est pas les poètes qui écrivent des poèmes, non, c'est la langue directement qui écrit les poèmes. Voilà. Merci.